Bonjour, bienvenue sur Mediapart et dans notre collection Un monde à vivre qui s'intéresse aux grands enjeux internationaux. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un terme, l'Indo-Pacifique, qui est de plus en plus en circulation dans la sphère diplomatique depuis une petite dizaine d'années, de façon particulièrement intense depuis 3 ou 4 ans. Le concept, on va en parler, peut être compris de différentes manières, mais il désigne grosso modo une très vaste région du monde centrée sur l'Asie maritime et sur la connexion entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Pour certains, c'est là que se jouent les relations internationales du XXIe siècle. En France, c'est en tout cas depuis 2018 que les autorités du pays en font explicitement un axe stratégique. On va en discuter avec nos deux invités que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Donc à ma droite, Delphine Alès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'INALCO et vous avez contribué notamment à un numéro spécial de la revue Diplomatie qui était consacré précisément à l'Indo-Pacifique. Et à vos côtés, François Gaulme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IFRI et vous êtes l'auteur d'un article sur l'Indo-Pacifique et l'Océanie dans une revue qui s'appelle Politique étrangère. J'aurais une première question tout d'abord, en commençant avec vous, Delphine Alès, sur l'adoption progressive de ce terme d'Indo-Pacifique par les puissances qui sont présentes dans cette vaste région que j'indiquais tout à l'heure. Auparavant, le terme qui était assez usité par les chancelleries, par les gens qui pratiquent les relations internationales, c'était le terme d'Asie-Pacifique. Quand on passe de l'un à l'autre terme, Est-ce que ça signifie quelque chose d'important? Certains disent oui, ça traduit une vision du monde différente. Est-ce que vous iriez jusque-là?
Oui, ça traduit. Alors, c'est un terme qui était employé précédemment dans le vocabulaire principalement de la biologie marine et qui est utilisé depuis 2007. Il apparaît dans le vocabulaire d'abord des think tanks en Inde, puis il est repris dans un discours qui a fait date de d'août 2007 du Premier ministre japonais Shinzo Abe devant le Parlement indien et qui était un discours qui avait comme vocation de mettre l'accent sur ce nouvel axe de partenariat entre l'Inde et le Japon dans la région. Donc c'est une extension géographique d'une certaine façon de la vision stratégique japonaise qui était en effet concentrée jusque-là sur l'Asie-Pacifique et ça traduit alors à la fois une approche qui est beaucoup plus maritimisée de la stratégie et ça traduit également une vision de la coopération régionale en Asie qui porte aujourd'hui beaucoup plus sur des enjeux politiques et stratégiques qu'elle ne porte, comme c'était le cas avant, sur des enjeux économiques. Quand on mettait l'accent sur l'Asie-Pacifique, on mettait l'accent sur des partenariats de nature économique, sur la facilitation des échanges entre les deux rives de l'océan Pacifique, alors que l'Indo-Pacifique est un terme qui a une connotation explicitement politique. Il s'agit d'affirmer un modèle et une convergence entre des États qui disent porter des valeurs similaires, la liberté de navigation, un modèle alors, qui est présenté par les promoteurs de l'Indo-Pacifique comme un modèle libre et ouvert, hein, sur le plan politique en particulier, avec bien sûr l'idée de mettre l'accent sur le contraste avec la Chine, et voilà l'idée de favoriser des coopérations stratégiques qui sont, on en reparlera peut-être, essentiellement des coopérations très fluides. Il n'y a pas pour le moment d'organisation régionale de l'Indo-Pacifique, comme c'est le cas pour la coopération Asie-Pacifique avec l'APEC.
Mais oui, pour l'instant, ça reste un terme sous lequel on recouvre à la fois des réflexions stratégiques et des instances de dialogue, mais il n'y a pas d'architecture institutionnelle dédiée, enfin à l'échelle de cette région en tout cas.
Non, il y a des coopérations qui sont multicentrées, qui s'organisent, qui se réorganisent. Il y a des convergences, évidemment. Il y a le fameux quad, le dialogue quadrilatéral en matière de sécurité.
On
en reparlera, mais il n'y a pas d'organisation au sens institutionnel du terme.
L'Indo-Pacifique, c'est la fusion de deux univers stratégiques, deux entités géographiques très vastes, de l'ancienne, ce qu'on appelait Asie-Pacifique, dont on vient de parler, et puis aussi une sorte d'entité autour de l'océan Indien, qui, pendant des années, on a parlé un peu de ça après la fin de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, l'Indian Ocean Rim, la bordure de l'océan Indien. Et en fait, c'était l'Inde qui, l'Afrique du Sud qui avait. Vous savez que l'Inde a une base maritime en Afrique du Sud. que la population indienne en Afrique du Sud compte énormément, etc., à tous les niveaux. Donc, c'est un concept indien au départ, hein, parce que l'Inde et la péninsule indienne est ouverte sur les deux océans. Enfin, sur et il y a un seul autre pays aussi qui est ouvert sur ces deux océans au sens indo-pacifique, c'est l'Australie, qui est un continent lui-même, mais qui a une façade pacifique et une façade d'ailleurs beaucoup plus inhabitée, si on peut dire, du côté de l'océan Indien.
Mais alors, donc vous avez cité les origines du terme, hein, à la fois indienne, japonaise. Bon, mais au fond, est-ce que ce terme-là ne monte pas en puissance, comme je le disais tout à l'heure, dans les milieux diplomatiques, dans les milieux de la recherche en relations internationales, aussi parce que la Chine, qui est quand même l'acteur majeur de la région, se pense elle-même à cette échelle. On a beaucoup parlé, hein, des fameuses nouvelles routes de la soie terrestres et maritimes. En l'occurrence, Ces nouvelles routes, ces nouvelles infrastructures, elles sont pensées sur ces deux océans-là. Donc, au fond, alors, ce qui est un peu ironique, parce que la Chine elle-même récuse le terme d'Indo-Pacifique en disant c'est contre nous, les autres puissances veulent s'organiser contre nous. Il y a même un responsable chinois qui a décrit l'Indo-Pacifique comme une idée accrocheuse qui se dissipera comme l'écume de l'océan. Mais au final, est-ce que la meilleure puissance Indo-Pacifique ou la meilleure stratégie Indo-Pacifique, c'est pas celle de la Chine?
Alors, juste pour revenir sur l'historique, c'est vrai que ce qui fait monter aussi la visibilité du terme, c'est que l'Indo-Pacifique fait écho à la stratégie américaine, hein, depuis la présidence Obama, de pivot vers l'Asie, qui avait été annoncée en 2009, qui a pris un petit peu de temps, et puis qui s'est effectivement concrétisée sous la présidence Trump, avec une orientation qui était explicitement anti-chinoise. C'est vrai que la Chine s'étend dans la région, mais avec une approche qui est, dans le discours, hein, bien sûr, des représentants chinois, axé sur la promotion du développement des infrastructures, ce que cherchent à doubler de leur côté l'Inde et les autres États de la région. Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur les visions de l'Indo-Pacifique et puisqu'il les distingue de l'Asie-Pacifique, c'est que ça permet à des États extérieurs à la région et en particulier les États-Unis d'y reprendre pied sur le plan stratégique sans pour autant remettre en question la souveraineté d'États de la région qui y sont extrêmement attachés, particulièrement l'Inde et l'Indonésie, qui sont traditionnellement promotrices du non-alignement et qui sont donc très frileuses à l'idée d'avoir des alliances explicites ou une présence militaire extérieure sur leur territoire. Le fait de promouvoir une vision navale de la stratégie dans la région permet à des États extérieurs, les États-Unis, on parlera probablement tout à l'heure de la France, eh bien, d'y avoir une présence renforcée sans aller à l'encontre de cette souveraineté des États de la région. Et les États-Unis ont donc très largement augmenté leur présence navale dans la région. Ça doit être en moyenne autour de 700 jours de mer américains dans la mer de Chine méridionale, pour parler du front oriental de l'Indo-Pacifique. Ça veut dire qu'il y a en permanence deux bâtiments militaires américains qui croisent dans cet espace.
Oui, je dirais que, en ce qui concerne la Chine, que effectivement, elle récuse la notion d'Indo-Pacifique et que sa politique asiatique et pacifique est différente, non moins dynamique, mais différente de celle qu'elle poursuit vis-à-vis de la bordure orientale du continent africain. Parce que la Chine a une vraie politique africaine, une volonté d'entente politique et économique avec l'ensemble du continent et l'Union africaine. Pour moi, la politique chinoise est très réactive sur le thème de l'Indo-Pacifique, mais dans sa conception même, elle est l'antithèse de cette notion d'Indo-Pacifique qui, effectivement, est récusée par un certain nombre de gens, qui la trouvent artificielle.
Et le terme est récusé par la Chine, mais on observe quand même une inflexion du vocabulaire. Vous citiez effectivement cette phrase qui date d'il y a 2-3 ans du ministre des Affaires étrangères chinois. Donc l'Indo-Pacifique était censé se dissiper comme l'écume de la mer. Beaucoup plus récemment, le même ministre des Affaires étrangères parle du Quad en disant que c'est la formation d'un mini-OTAN dans la région.
Alors, on va parler du Quad tout à l'heure, mais justement pour essayer de rentrer un peu dans le détail de ces différentes visions Pacifique qui s'affrontent. Avec vous, Delphine Alès, on va revenir sur une distinction que vous faites dans votre article, où vous distinguez différents discours sur l'Indo-Pacifique. Il y en a un premier, on a commencé à l'aborder à propos des États-Unis. On va voir une carte donc, où on voit la présence des États-Unis dans cette zone. Vous parlez à propos des États-Unis de discours projectifs. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le vocabulaire de l'Indo-Pacifique pour les États-Unis vient légitimer une projection de force renforcée dans la région. Donc il y a cette idée que l'Indo-Pacifique, on le disait tout à l'heure, est une vision d'abord stratégique et politique de la région qui doit donner lieu à des partenariats et à un renforcement de la présence militaire américaine pour assurer la liberté de navigation, donc la protection finalement des voies maritimes, aussi bien face à des menaces qui sont considérées comme des menaces relevant de la sécurité élargie, menaces non militaires, criminalité à la mer, piraterie, trafic, etc., que des menaces qui pourraient résulter d'une présence croissante et de plus en plus assertive de la Chine dans la région.
Oui, il y a beaucoup de conflits dans les mers, évidemment, qui bordent la Chine. Je reste avec vous sur un autre type de discours que vous identifiez comme étant plus inclusif ou régionaliste. On va voir une autre carte qui montre bien à quel point cette vision est différente, puisqu'elle est plus large, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'aux côtes de l'Afrique, en partant depuis la façade pacifique des Amériques. Mais en termes plus qualitatifs, qu'est-ce que ça veut dire plus inclusif ? Est-ce que ça veut dire que c'est un peu moins confrontationnel par rapport à la Chine ?
Oui, alors pour beaucoup d'États asiatiques, et sur la carte vous avez l'ASEAN qui a publié à l'été 2009 une vision de l'Indo-Pacifique qui correspond en fait à ce qui était depuis plusieurs années la vision de l'Indonésie qui a été promue au niveau régional. L'idée est de ne pas s'opposer frontalement à la Chine parce qu'on est dans une position qui est complexe. Donc par rapport aux États-Unis qui ont une posture plus confrontationnelle, pour les États membres de l'ASEAN, l'idée relève plutôt de ce qu'on va appeler le hedging, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de multiplier les partenariats. Ça correspond à la vision traditionnelle du régionalisme de l'ASEAN.
C'est nations d'Asie du Sud-Est.
Voilà. Oui, tout à fait. C'est l'organisation effectivement régionale Sud-Est asiatique, donc qui est composée des 10 États d'Asie du Sud-Est. Et en fait, la vision de l'ASEAN consiste à dire, on a beau être des petits États par rapport aux grands géants de la région, l'important c'est d'être dans le siège du pilote et de fixer les normes en matière de coopération régionale et donc finalement d'organiser en cercle concentrique autour de cette région ce que va être la coopération régionale. L'ASEAN l'a fait avec plein d'organisations qui relèvent plutôt du politique, de l'économique ou du stratégique. Et le fait de publier une vision aséanienne de l'Indo-Pacifique, ça a mis un petit peu de temps parce que les États n'étaient pas d'accord précisément sur la posture à adopter vis-à-vis de la Chine. Mais il y avait cette idée de dire on va essayer plutôt de promouvoir une approche inclusive de l'Indo-Pacifique qui s'étendent jusqu'à la Chine et qui consistent, je reprends les termes exacts de la vision aséanienne de l'Indo-Pacifique, il s'agit de connecter les connectivités, c'est-à-dire de faire en sorte de renforcer aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan politique la connexion entre les deux océans avec l'idée que l'ASEAN est là comme pivot au milieu de ces deux océans.
Vous étiez déjà venu à Mediapart pour parler de l'Indonésie dans cette fameuse organisation qu'on appelle l'ASEAN. C'est l'Indonésie qui a été le moteur pour avoir cette vision indo-pacifique de la région.
Oui, parce que l'Indonésie est la charnière de la région. Donc pour l'Indonésie, avoir un discours, une vision indo-pacifique, c'est finalement essayer d'étendre ce que l'Indonésie défendait depuis 2014 avec l'actuel président Joko Widodo, l'idée que l'Indonésie devait devenir un pivot stratégique et un pivot maritime mondial. Ça pas vraiment fonctionné parce qu'on peut pas le prétendre et on peut pas le faire seul. Et donc, promouvoir au niveau régional cette vision inclusive de l'Indo-Pacifique, c'est une façon d'étendre aussi cette approche et d'essayer encore une fois de garder la main sur la région. Au lieu d'être balancé entre les grandes puissances, faire en sorte d'organiser la coopération régionale.
Alors, entre cette vision des États-Unis et cette vision régionaliste, comment est-ce qu'on peut arriver à situer la vision de la France, François Gaulle ? On va parler en détail de la présence de la France. Mais en termes de discours, puisque Emmanuel Macron lui-même a dit « nous sommes une puissance indo-pacifique », ça veut dire quoi l'indo-pacifique dans la vision française ? Est-ce qu'ils sont entre les deux, plus proches de l'une ou de l'autre ? Comment vous diriez les choses ?
Ça veut dire qu'il y a eu un retournement de la position française dans le Pacifique depuis la présidence de Jacques Chirac, puisque la question des essais nucléaires en Polynésie avait considérablement détérioré les relations avec les pays du Pacifique et notamment le plus puissant, bien sûr, l'Australie.
Ouais, c'était en 1995,
c'est ça oui, que
Jacques Chirac avait fait reprendre les essais nucléaires.
Et donc cette période est totalement oubliée et depuis François Hollande et plus encore avec Emmanuel Macron, il y a un rapprochement notamment très très sensible et des visites présidentielles en Australie. Un rapprochement stratégique, un rapprochement militaire, vente de bâtiments à l'Australie, etc. On veut faire une alliance de plus en plus forte avec l'Australie. Et dans cet esprit-là, on adopte effectivement le concept d'Indo-Pacifique. Mais il y a aussi la volonté de s'entendre avec les États-Unis de Trump, parce que pour moi, il y a deux époques dans le concept Indo-Pacifique. Il y a la première époque de la décennie 2000-2010, où finalement ça a été, le Quad, c'était des manœuvres militaires conjointes, et c'était pas grand-chose, c'était et puis la présidence de Trump qui a relancé complètement le concept sans doute par réaction envers la politique surtout commerciale d'Obama dans le Pacifique et vis-à-vis de l'Asie, et faut pas oublier qu'Obama est un moyen. Trump est New-Yorkais, ne comprend rien à ce qui se passe dans le Pacifique et a préféré avoir une vision plus large qui incluait notamment Diego Garcia dans l'océan Indien. Je pense qu'avec le départ de Trump, tout ça va changer, va évoluer. Ça ne sera pas nécessairement complètement remis en cause, mais je pense que la position française évoluera aussi en fonction de la position américaine. Et puis, il y a un point fondamental, à mon avis, aussi bien pour l'Australie que pour la France, c'est que on veut une forme de confrontation, de réponse à une menace militaro-économique et politique chinoise. En même temps, on ne veut absolument pas se fâcher avec la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie. C'est pas la Grande-Bretagne. Et la France, Emmanuel Macron aussi a confirmé une dynamique d'entente entre la France et la Chine. L'ambassade de France qui a le plus d'effectifs aujourd'hui, c'est l'ambassade de Pékin.
Vous, dans votre article que je citais en début d'émission, vous aviez l'air de dire que le discours français était un peu intermédiaire entre la vision des États-Unis et la vision plus régionaliste.
Oui, parce que tout en ayant une approche de l'Indo-Pacifique converge avec l'idée que c'est une région qui doit être basée sur des valeurs, l'idée d'un Indo-Pacifique libre, ouvert, fondé sur le respect du droit international, en particulier en mer et en mer de Chine méridionale, la France partage cette vision, mais est beaucoup plus proche dans sa représentation des équilibres régionaux de ce qu'est la vision aséanienne fondée sur la coopération régionale. Et donc la France a tendance à se rapprocher d'ailleurs de l'ASEAN. Elle en est devenue l'année dernière, en 2020, un partenaire stratégique. Et l'objectif de la France est d'arriver à s'affirmer et à se faire accepter, puisqu'on ne peut pas simplement l'affirmer de façon unilatérale, comme un État appartenant pleinement à la région. La diplomatie française réaffirme régulièrement que la France est une puissance de l'Indo-Pacifique. Ça a été très mal perçu d'ailleurs à plusieurs reprises sous la présidence Hollande. La diplomatie chinoise avait répondu assez vertement au ministre de la Défense français que la France était géographiquement en Europe, ce qui était une manière de dire vous n'avez rien à faire dans la région et dans ses équilibres politiques et stratégiques. Mais la France réaffirme, en ayant adopté depuis 2016 pour le ministère des Armées le vocabulaire de l'Indo-Stratégique, la France affirme qu'elle appartient à cette région, qu'elle y a 2 millions d'habitants, qu'elle y a la deuxième zone économique exclusive et qu'elle a donc pleine légitimité à porter un discours sur l'Indo-Pacifique.
Je poursuis du coup sur la question française, parce qu'effectivement ce que vous venez de dire, c'est ce que disait la ministre de la Défense française à une question parlementaire fin novembre, en parlant beaucoup des intérêts français à protéger. Mais est-ce qu'au fond il n'y a pas aussi quelque chose de plus, c'est-à-dire une ambition, que je citais tout à l'heure Emmanuel Macron, qui disait « nous sommes une puissance indo-pacifique », une ambition d'être vraiment une puissance de la région et de jouer un peu dans la cour des grands, quoi, à un niveau global, grâce à ces territoires.
Oui, bon, la France fait partie des quelques États qui ont une capacité de projection navale mondiale, mais pour continuer à faire partie des grands, il faut effectivement avoir un discours stratégique sur cette région. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir une vision de l'Indo-Pacifique quand tous les autres grands États du monde en ont une. Et par ailleurs, la France, il y a des intérêts tout à fait directs. On parlait tout à l'heure de la population, de la zone économique exclusive. C'est aussi dans l'intérêt de la France de continuer à promouvoir l'accès naval à l'ensemble des mers de la région. Et la destruction de l'environnement dans la région affecte directement les intérêts de la France, notamment en Polynésie, puisque le fait qu'il y ait notamment de la surpêche en mer de Chine méridionale conduit à de plus en plus d'incursions de pêcheurs qui viennent de mer de Chine méridionale et qui vont maintenant pêcher dans les réserves protégées des territoires français.
François Ghosn, je me tourne vers vous parce que en préparant l'émission, vous aviez l'air de dire que toute la diversité en fait, des statuts de tous ces territoires ultramarins de l'Indo-Pacifique français, entre guillemets, peut-être rendait un peu difficile une stratégie cohérente. On compte des départements, on compte des territoires d'outre-mer, on compte des collectivités d'outre-mer qui ont des statuts particuliers. On a beaucoup chroniqué tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie autour de la question des référendums sur l'indépendance sur Mediapart. Est-ce que pour vous, cette pluralité comme ça de statuts est un frein à une stratégie cohérente dans la région ?
Oui, la région est immense. Et on est bien obligé de tenir compte de la diversité, et en particulier, il y a une méfiance vis-à-vis du concept d'Indo-Pacifique chez des États insulaires secondaires, disons, par rapport à l'Asie ou à l'Inde ou à l'Asie méridionale ou à l'Inde. Il y a un certain scepticisme, et en particulier dans la région qui veut de plus en plus s'appeler à nouveau Océanie, hein, qui regroupe ce qu'on appelle un peu arbitrairement, en termes anthropologiques, la Mélanésie, la Polynésie, etc. Et ça n'a aucun rapport, cette problématique du Pacifique, qui est un tiers de la planète, hein, l'océan, n'a aucun rapport avec la problématique de l'océan Indien, où la France a des départements. Et il est bien évident que les problèmes et le voisinage de la Réunion ou de Mayotte n'a aucun rapport avec la problématique de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne sans doute le sauvetage des récifs coralliens. Et donc, d'une certaine manière, c'est des intérêts stratégiques, militaires au départ, économiques un petit peu, mais on voit bien que le thème du changement climatique peut donner peut-être de la consistance à une politique française indo-pacifique qui manque terriblement de cohérence à cause de la diversité des situations et des milliers et milliers de kilomètres qu'il y a entre la Réunion les îles australes. En Polynésie.
En Polynésie, Delphine, ça boucle un peu avec ce que vous disiez sur le défi écologique, finalement, que peut-être c'est aussi quelque chose qui peut faire l'originalité ou la valeur ajoutée, entre guillemets, de la France dans la région. Il y a déjà des coopérations enclenchées déjà sur ce thème-là, au moins scientifique.
Oui, la France insiste beaucoup sur la sécurité environnementale dans sa stratégie Indo-Pacifique. C'est effectivement ce qui la distingue d'une représentation de la région qui, pour le moment, est très majoritairement en termes stratégiques stratégique conventionnelle, pour le dire comme cela, sous la forme d'opérations, sous la forme d'entraînement, d'exercices militaires conjoints entre grandes puissances. Donc le fait de promouvoir effectivement la sécurité environnementale pourrait permettre à la France de densifier son écheveau de coopération dans cette région. Malheureusement, je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour la zone, qui est très fragilisée évidemment par le changement climatique, qui est fragilisée également par la dégradation du domaine maritime. Mais pour le moment, ça passe vraiment à l'arrière-plan derrière les problématiques stratégiques conventionnelles.
Alors, ces problématiques stratégiques conventionnelles, j'aimerais qu'on en reparle un petit peu, parce que vous avez tous les deux cité à plusieurs reprises le Quad. Alors, on va voir une carte où on va voir les quatre pays de ce Quad. Donc, ce sont les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Inde. Alors, vous me corrigez, mais je crois que le Quad est un groupe, dans ces quatre pays, on appelle ça le dialogue, le dialogue quadrilatéral entre ces quatre pays, plutôt initié par le Japon. Il y a une sorte de faux départ à la fin des années 2000, parce que l'Australie, c'est pas vraiment complètement engagé, et puis elle est revenue assez récemment, à la fin des années 2010, dans cette organe. Je sais même pas comment il faut dire. Est-ce que c'est une organe, une entité? En tout cas, voilà, il y a un doute sur, au fond, ce que c'est vraiment que ce Quad, qui n'est quand même pas rien, puisque nos collègues du Monde avaient fait un grand article sur la question il y a quelques temps, en disant que, par exemple, en octobre dernier, en pleine pandémie, il y a eu une réunion physique, tout le monde a tenu, les ministres des services étrangères de ces quatre pays ont tenu à se rencontrer physiquement. En novembre, il y a eu des exercices militaires. Donc, il y a l'air quand même d'avoir une existence un peu concrète de ce groupe, mais dont l'utilité est en même temps remise en question. Ça a l'air un peu complexe, quand même.
Alors oui, il y a eu un numéro qui vient sortir là de la revue de l'Université de l'air américaine consacrée au Quad Plus, dans une revue qui s'appelle The Journal of Indo-Pacific Affairs. Le papier introductif est très clair à ce sujet. Il s'intitule « Form versus Substance », la forme contre la substance. Et je crois effectivement que c'est la question fondamentale. Est-ce que ça prend vraiment de la consistance? Et moi, la question que je me pose, qui est très ouverte, j'ai pas de compétences personnelles particulières là-dessus, mais je pose la question presque comme un citoyen. Qu'est-ce qui va survivre à la présidence Trump dans ce fameux Quad?
Parce que par rapport à la position des États-Unis et à la vision projective que vous définissiez tout à l'heure, quelle est l'importance de ce fameux Quad?
Oui, vous aviez raison d'hésiter sur la nature de l'organisation, parce que c'est un peu un ovni, c'est pas une institution, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de statut, ce sont des rencontres régulières, principalement entre hauts fonctionnaires, mais parfois au plus haut niveau politique, donc des ministres des Affaires étrangères ou de la Défense. Donc le Quad a émergé effectivement en 2007, puis il est tombé dans l'oubli l'année suivante parce que l'Australie était trop timorée, craignant justement que le Quad ait une orientation qui soit trop anti-chinoise. Et puis il est renaît de ses cendres en 2017. Donc ce sont d'abord des exercices militaires. D'ailleurs, le Quad a élargi des exercices qui préexistaient. Donc il n'a pas complètement innové de ce point de vue-là. C'est une forme de coordination. Et puis ce qui est important avec le Quad, comme avec toutes ces formes d'organisation fluide dans la région Indo-Pacifique, c'est qu'il fixe d'une certaine manière le ton ou l'agenda des coopérations stratégiques dans la région. Donc on est très très loin du mini-OTAN que dénonce la diplomatie chinoise, mais disons que la représentation de ce qu'est ou de ce que devrait être l'Indo-Pacifique est quand même fixée par ce qu'il ressort des rencontres du Quad.
Alors, dans ce Quad, il y a l'Australie. Je tenais quand même à ce qu'on parle de l'Océanie, dont l'Australie est le pays, on va dire, principal, au moins par la taille et aussi par la puissance. On va avoir une autre carte qu'on a préparée, où on voit un peu les deux grands pôles de l'Océanie, entre ce qu'on appelle l'Australasie, donc principalement Australie-Nouvelle-Zélande, et puis le triangle polynésien. Vous avez parlé des îles polynésiennes tout à l'heure. François Gaulle, est-ce que vous avez parlé des problématiques de cette région qui sont spécifiques, très complexes, hein, parce qu'on a beaucoup de pays avec des intérêts chacun évidemment spécifiques. Est-ce qu'il n'y a pas le risque pour cette région où les Occidentaux ont énormément de relations d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas le risque de se retrouver relégué un peu par rapport à ce vaste ensemble indo-pacifique, à ces vastes réflexions indo-pacifiques, à se retrouver un peu relégué dans les préoccupations et dans les capacités à s'organiser?
Ben je pense qu'en ce qui concerne l'Océanie, c'est un terme qui a été ressuscité un petit peu, c'est un terme du 19e siècle.
En tout cas, à l'école, quand on apprend les continents, on apprend l'Océanie comme continent.
Qui avait été récusé comme colonialiste au moment où un certain nombre d'États du Pacifique accédaient à l'indépendance. De petits États. Et puis maintenant, ils y reviennent. Ils y reviennent un peu contre l'Australie. Ils y reviennent contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays développés, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays du Pacifique Sud, comme on dit maintenant, pour simplifier, Pacifique Sud, même si il y a des pays du Pacifique Sud qui sont au-dessus de la ligne équatoriale. En fait, il y a trois. Oui, il y a le triangle polynésien, qui est un phénomène linguistique et culturel, qui date d'un millénaire, ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'expansion des peuples polynésiens qui fait 7-8 000 kilomètres de côté. Hein. C'est l'expansion la plus extraordinaire de toute l'humanité, enfin d'une seule culture, de navigateurs hors pair. Et puis il y a des entités qui sont là aussi complètement désuètes dans leur dénomination, la Mélanésie. Pourquoi ? Parce qu'au 19e siècle, Dumont d'Urville avait dit que les populations étaient noires. Et donc, il a appelé Mélanésie noire, les îles noires. Et puis, Micronésie, les petites îles, hein, pourquoi ? Elles ne sont pas plus grandes que les îles de Polynésie, mais simplement, on n'y parle pas des langues polynésiennes. Et c'est pour ça que, par exemple, les Britanniques, quand ils ont donné l'indépendance à ces micro-États, ont donné une indépendance séparée à ce qu'on appelle aujourd'hui Kiribati, qui étaient les îles Gilbert, et à Tuvalu. Pourquoi ? Parce que Tuvalu est de langue et de culture polynésienne, alors que Kiribati est micronésien, entre guillemets. Il y a aussi les langues papoues, enfin, il y a une très grande diversité culturelle du Pacifique, mais dans des États plus ou moins grands. Il ne faut pas oublier qu'il y a des États microscopiques, des atolls de quelques... qui font 50 km de diamètre. Et puis vous avez en même temps la plus grande île du monde qui est la Nouvelle-Guinée et qui est coupée en deux. Mais tous sont des petits États au sens de leur statut international, de la performance économique, etc., de leur poids politique dans le monde par rapport à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Et de plus en plus, on voit se former des alliances et notamment un rapprochement Mélanésie. Polynésie, c'est très clair, et également un rapprochement Micronésie pour défendre leurs intérêts face aux grands. Et les grands, ça pourra être un jour aussi, pour l'instant c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont en première ligne, attaqués par ces petits États, mais ça sera aussi les États-Unis un jour qui sont présents, enfin, qui sont presque des colonisateurs eux aussi. Enfin, il y a des territoires, je veux dire, l'histoire des îles Hawaï, c'est bien une colonisation, une annexion américaine, c'est devenu un État en 60. Un État américain en 60, une colonisation très tardive, mais une forme de colonisation. L'Indonésie même se trouve en porte-à-faux aujourd'hui. Dans la partie de la Nouvelle-Guinée qu'elle a héritée des Hollandais. Donc on va vers des... on a une idée d'harmonie dans l'Indo-Pacifique par rapport justement au continent africain qui serait divisé et qui aurait des guerres locales, des guerres civiles perpétuelles, etc. Mais moi, je pense qu'on va vers des tensions internes de plus en plus fortes aussi dans le Pacifique.
Je rebondis là-dessus pour une question un peu conclusive. Je vais donner un peu dans le cliché, mais au fond, est-ce que l'Indo-Pacifique, on peut dire que c'est là que c'est un peu le théâtre en fait des relations internationales qui vont vraiment structurer le 21e siècle, ou bon, est-ce que c'est une facilité, un raccourci? Puisque effectivement les tensions les plus fortes, que ce soit la rivalité sino-américaine ou d'autres tensions à un stade peut-être moins impressionnant, se révéleront dans cette zone qui concentre des circulations, des échanges économiques et des rivalités stratégiques qui n'ont peut-être pas d'équivalent maintenant aujourd'hui dans l'Atlantique ou en Europe.
Oui, si on prend en considération le poids aussi bien démographique que territorial des États qui composent l'Indo-Pacifique, il n'est pas étonnant que l'essentiel des tensions s'y concentre. Il ne faudrait pas cependant que le fait de mettre l'accent sur la dimension océanienne nous fasse perdre de vue le fait que ces tensions géostratégiques sont d'abord le fait des dirigeants des États qui interagissent dans la région. Ce n'est pas parce que l'Indo-Pacifique est un grand territoire qu'il concentre ces tensions. C'est d'abord parce qu'il y a des tensions politiques entre les États qui le bordent.
Oui, il n'y a pas d'effet de la géographie, c'est ça que vous voulez dire.
Il n'y a pas d'effet automatique de la géographie effectivement de l'Indo-Pacifique. Mais c'est une région qui représente les deux tiers du globe et de sa population, et donc qui concentre effectivement des tensions extrêmement vives qui ont vocation à s'accroître. Oui.
François Ghosn, je vous pose la même question. Souvent, on dit le monde, le centre de gravité voire de l'économie, voire du monde se déplace vers le Pacifique. On disait ça, on a commencé l'émission comme ça. Est-ce que l'Indo-Pacifique illustre
Écoutez, moi, je pense justement que Indo-Pacifique, c'est un trait d'union. Du côté indo, c'est pas du tout le centre du monde au sens économique ou politique. Même s'il y a des problèmes à régler et si les détroits et le canal de Mozambique, etc., sont importants, la route du Cap c'est pour l'Europe. Mais moi, je me souviens, il y a une trentaine d'années, je discutais déjà de ces questions avec des responsables américains. On disait la route du Cap, c'est intéressant pour les Européens, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Les Américains étaient fascinés, commençaient à être fascinés par le Pacifique, le côté Pacifique. Et c'est sûr que là, on est vers un centre du monde qui sera probablement plus important à tout point de vue que l'Atlantique Nord dans le siècle qui
nous a précédés.
Et que les Américains seront certainement, à mon avis, tentés de faire un OTAN du Pacifique.
Ultime question du coup pour Delphine Alès, un peu d'actualité puisque Joe Biden sera bientôt investi nouveau président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait de ce que dit, alors sinon Biden, en tout cas l'entourage autour de lui qui travaille sur ces questions stratégiques justement de l'Indo-Pacifique et d'une éventuelle OTAN de l'Indo-Pacifique?
Oui, alors pour terminer sur l'OTAN, c'est très difficile de se projeter. Évidemment, je vois pas la formalisation d'une alliance structurée comme c'est le cas pour l'OTAN, mais plutôt le fait de renforcer la convergence autour de mécanismes plus informels et plus fluides, qui sont aussi beaucoup plus dans la logique des États de la région, qui ne sont pas prêts à s'engager dans des alliances contraignantes et surtout pas avec les États-Unis et encore moins contre la Chine. La chance de Biden, c'est que la vision Indo-Pacifique pour les États-Unis commence avec Obama, donc il y a quand même une dimension de continuité. Voilà, et il donnera vraisemblablement, c'est ce qu'il ressortait en tout cas des discours qui ont déjà été prononcés, il donnera une orientation moins assertive, moins explicitement anti-chinoise à cette représentation du monde et de la région, mais tout en continuant, en prolongeant ce discours sur l'Indo-Pacifique libre et ouvert, fondé sur des normes et des valeurs qui correspondent aux intérêts américains.
Écoutez, on va continuer à observer ça. En tout cas, merci à tous les deux pour nous aider à y voir plus clair dans ce terme qui, comme vous l'avez compris, devient de plus en plus structurant pour les relations internationales contemporaines. Merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous sur Mediapart pour toutes les vidéos d'Un Monde à Vif et de tous les entretiens du studio. Merci.